Octave Mirbeau. Dans la vieille rue. Première partie, chapitre 1. La rue, saturée d'humidité, séchait peu à peu sous le rayonnement oblique d'un soleil brûlant, entre deux nuages lourds de pluie, tandis qu'un souffle de vent humide passait et repassait, s'efforçant d'entraîner, au-delà de la ville, les vapeurs grises qui attendaient la brise du nord pour se dissoudre ou s'enfuir au midi. Peu à peu, cette brise s'éleva et dégagea en un instant tout un coin du ciel, qui devint soudainement d'un bleu profond. Puis elle fit volte-face et ramena sur le même point toute une masse livide, dérobant encore le soleil. La rue s'obscurcit jusqu'au moment où, de nouveau éclairée, elle refléta dans ses flaques d'eau une large bande de firmament serein. S'étendant d'une teinte uniforme vers les horizons de la mer, pour s'y unir et s'y confondre. Maintenant, des passants affairés, retardés par l'orage, sortaient des maisons, allaient et se croisaient, évitant, dans leur allure rapide, les pierres mouillées du dallage irrégulier. Les portes des magasins s'ouvraient avec un bruit sec de sonnette. Du fond des arrière-boutiques, un murmure de voix sortait, monotone et continu. Dans cette partie élevée de la rue, des rires commençaient à sourdre. Les filles de comptoir venaient respirer l'air frais du matin. Leurs jupes, à fond clair, balayaient les trottoirs noirs de boue, et l'eau de pluie, accumulée dans les gouttières circulaires des toits, trouait de taches grises la blancheur de leurs camisoles, à peine attachées sur la gorge, et mouillaient leurs coiffures à chignons bas. Tandis qu'elles parlaient entre elles, très vite et très haut, avec des inflexions de voix chantantes et sonores, leur rire, dominant les cris aigres des marchands et le grincement bruyant des petites voitures de légumes ou de lait de brebis, montait et s'arrêtait avec une netteté extrême aux dernières croisées des hautes maisons noires, dont les balcons de fer, encomblés de giroflées jaunes et d'œillets pourpres, laissaient pendre des tiges capricieuses, qui, courant le long des gouttières, enlaçaient de leurs pousses nouvelles les corniches saillantes des étages inférieurs. Mais, dans la partie tout à fait basse de la rue, qui donnait accès dans la ville neuve, il y avait moins de laisser-aller, et toute conversation se noyait dans le bruit plus persistant et régulier des lieux fréquentés. Les bâtisses étaient moins ornées et quelques-unes avaient un trottoir de la longueur de leur façade. On arrivait ainsi à la petite place de l'église, plantée d'arbres grêles de distance en distance et sur le bord de laquelle le trottoir se poursuivait jusqu'à la grande route nationale qui était le centre de la ville et où les habitations, tout à fait neuves cette fois, s'élevaient de leurs coupes régulières dans un alignement parfait. Parallèlement à cette route fréquentée, et bien autrement opulent dans sa splendeur de dernier venu, le boulevard étendait sa voie spacieuse, garnie des deux côtés de palmiers verts et d'eucalyptus au feuillage pâle. Les élégants jardins des villas d'hiver mettaient sur le bleu foncé du ciel une tache vive de grenadier et de laurier rose en pleine floraison. À gauche, le casino, tout blanc et neuf, faisait une tache plus froide. Puis une petite montée ramenait à la place de la rade, et par un léger détour, à la rue étroite de l'ancien quartier. Au haut de celui-ci, une vieille église, presque abandonnée, une tour en ruine. Puis, toute régularité et toute symétrie s'interrompaient. La rue devenait chemin, et les bâtisses se distançaient dans la montée caillouteuse, où l'eau de pluie s'était tracé un lit dans ses descentes. Quelques pans de murs formant clôture à des jardins en terrasse, quelques terrains incultes, coupés d'oliviers, faisaient une éclaircie sur les fenêtres d'une maison qui terminait la rue de son angle. D'une teinte uniforme, avec des lézardes dans sa partie supérieure et des taches d'humidité au ras du sol, celle-ci s'élevait un peu au-dessus du niveau des autres habitations. Des mansardes, la vue pouvait plonger sur la vaste étendue des terrains plats, plantés d'orangers, qui faisaient une ligne sèche de perspective jusqu'à la mer, et de la mer aux îles de la côte, terminant ainsi tout un côté de l'horizon. Mais aux étages inférieurs, le regard s'arrêtait, borné par l'église et par les cheminées des toits. Et c'était une vue toute mélancolique que celle du chemin montant de la ville bruyante, qui, s'enfuyant à gauche et devenant tout à coup désert, allait d'une pente forte jusqu'à mi-coteau. Là, il n'y avait plus que des degrés de pierre, taillés dans la roche même. Puis la route s'interrompait pour reprendre un peu plus haut, courir cette fois en lacets étroits sur la crête de la colline et disparaître sous les masses d'oliviers qui en garnissent le revers. À cette heure de la journée, tandis que le soleil séchait rapidement l'eau de pluie, cette maison, un peu solitaire, était réveillée par le bruit des voix, que la sonorité de la rue étroite renvoyait distinctement jusqu'aux fenêtres, qu'aucune plante trop vivace n'encombrait. Un seul pot de basilic, un peu desséché, une giroflée sauvage, soigneusement transplantée, et c'était tout. Mais maintenant, une tête jeune se montrait, écartant de la main les persiennes et interrogeant l'horizon. Une tête petite et fine, avec des yeux noirs, calmes et largement ouverts. Une trace de fatigue aux paupières très bistrées, un front bas, envahi par des mèches de cheveux bruns. Un teint chaud et une belle bouche d'enfant, sérieuse et réfléchie, au coin de laquelle se retrouvaient les signes de lassitude des paupières. Les cheveux étaient simplement relevés et comme à la hâte. Un fichu mal attaché entourait le cou blanc. La robe noire poussiéreuse n'avait pas de manchette. « L'orage est passé, Maximin. Voici une fraîcheur qui va emporter tous les nuages. Tu auras une meilleure journée. Veux-tu que je roule ton lit vers la fenêtre ?» C'était une voix un peu basse, au timbre sonore et musical, qui résonna dans la tristesse de cette chambre de malade. Puis une voix traînante et pleureuse reprit. « Non, laisse-moi, tout me fatigue. » Un silence se fit. Les yeux lassés continuèrent pendant quelques instants encore à fixer l'horizon. Ensuite, la fenêtre fut refermée, les petits rideaux blancs retombèrent sur les vitres. Les murmures de la rue, à mesure que la chaleur devenait plus forte, ne faisaient plus qu'un bourdonnement autour de la maison silencieuse. Le bruit lointain de la ville et quelques cris d'hirondelles mêlaient confusément leurs sons divers sous la torpeur de cette heure brûlante. Peu à peu, toute voix s'éteignit. Aux fenêtres des premiers étages, des mains pressées tirèrent les stores, tandis qu'à l'horizon, la mer, baignée de clarté, laissait miroiter ses ondes sous un perpétuel scintillement de soleil. Et, dans la solitude du chemin désert, ce ne fut plus bientôt qu'un chant persistant de cigales, bruissant dans les prés couverts sous l'ombre des oliviers. Puis le timbre fêlé de la vieille horloge sonnant ses quarts avec lenteur, pendant que la petite aiguille de son cadran s'arrêtait sur midi. Chapitre 2. Geneviève, dit le docteur en se levant, il faudra retarder aujourd'hui l'heure du souper. Je vais à Barquerane et ne rentrerai que fort tard. Oui, père, répondit la jeune fille. Le dîner de midi était terminé. Dans la chambre basse, d'aspect triste et pauvre sous son plafond à solives, la table était mise encore. Les plats avaient été enlevés, mais il restait des verres vides et quelques miettes de pain couvraient la nappe grossière. Sur la dernière assiette, que le docteur venait de repousser, un essaim de mouches s'était jeté avidement. Geneviève se leva, et dispersant les insectes de sa main un peu grande et brune, mais admirablement modelée, la main d'une femme saine et calme, elle emporta l'assiette. Puis, s'approchant d'un petit buffet bas, peint en gris, qui servait de dressoir, la réunit aux autres et les déposa en pile sur un cabaret verni. Elle ouvrit ensuite une porte voisine et cria « Vincente !» Après un silence, on entendit dans le couloir un pas lent qui traînait et une servante apparut sur le seuil de la chambre. Sa robe de percale, négligemment attachée et dont plusieurs lessives avaient brouillé dessins et couleurs, pendait sur son corps malingre d'enfant malvenu. Cette jupe, relevée haut sur les hanches, laissait apercevoir des jambes grêles et de larges pieds chaussés d'espadrilles qui battaient le sol d'un bruit régulier. La jeune fille tordait niaisement entre ses doigts un des coins de son tablier de toile bise. Et, avant de prendre le plateau que sa maîtresse lui tendait, elle s'en essuya le front, transportant ainsi sur son visage maussade et maladif les zébrures noires dont le charbon l'avait marqué. Quand elle se fut éloignée, rejetant violemment derrière elle la porte du pied, Geneviève, sans tressaillir à ce bruit criard, sans faire d'observation, se rapprocha de son père. Habituée dès son enfance à la pauvreté, ayant les instincts engourdis encore, elle trouva naturel ce service négligent et grossier. Ses sens, qu'aucune recherche de vie n'avait affiné, ne se révoltaient point. Elle vivait sans presque s'apercevoir de la dégradante misère de son logis. Posant sa main sur l'épaule du docteur, sur la trame usée de sa redingote noire professionnelle, aux contours blanchis, au col râpé, elle demanda placidement « Père, à quelle heure partez-vous » Celui-ci, arrêté devant la fenêtre, considérait le baromètre d'un regard attentif. Il ne répondit rien et, poussant les persiennes, mit sa tête au dehors. « C'est le mistral qui souffle, » s'écria-t-il. « Il ne faut pas que Maximin sorte. » En disant ces mots qui révélaient sa préoccupation constante, le docteur referma la croisée et revint vers la table, où un garçon de 10 ans, assis sur une chaise haute, les bras appuyés sur la nappe et le menton dans ses mains, suivait avec de grands yeux ardents les mouvements de son père. Ce visage maigre, aux longs traits jaunis, cette tête penchée de côté par un tic habituel, exerçait sur lui une fascination. On aurait dit que l'enfant cherchait à découvrir, dans cette attitude d'homme timide et malheureux, le secret de leur destinée. « Tu seras sage, » dit le père. « Tu obéiras à ta sœur, n'est-ce pas, Maximin ?» Il s'était penché vers son fils et le regardait avec une intensité d'affection. « Oui, papa. » Le docteur sortit sans rien dire à sa fille. Sa haute taille voûtée disparut à travers la porte. L'enfant soupira. « Geneviève » appela-t-il. Elle le rejoignit et, comprenant ce qu'il voulait, le souleva dans ses bras robustes. Il passa les siens autour du cou de la jeune fille et ainsi, attachés l'un à l'autre, le frère et la sœur traversèrent lentement la chambre. Avec des précautions infinies, elle déposa son fardeau sur un petit lit bas, espèce de fauteuil allongé, sur lequel Maximin s'étendit. Elle prit ensuite l'oreiller, le secoua, et après quelques petits coups légers, le glissa, gonflé et rafraîchi, sous la tête de l'enfant. Le plus simple mouvement était pour celui-ci une cause de souffrance. Il ferma les yeux, et des gouttes de sueur perlèrent sur son large front blanc. Geneviève les essuya doucement, puis elle lissa ses cheveux, et couvrit ses pauvres membres difformes d'une couverture de laine usée dont la minceur attestait les longs services. « Comment te sens-tu, petit ? » demanda-t-elle. Une expression amère passa sur le visage de Maximin. « Ouvre la fenêtre, » dit-il impérieusement. Elle allait et venait dans la chambre, rangeant, époussetant, et la présence de cette femme belle et forte faisait ressortir par un puissant contraste les mesquines proportions de ce qui l'entourait. Les meubles presque sordides, l'unique fenêtre aux carreaux étroits, les rideaux de percale jaunis, les chaises de crin noir usées, tout cela imprégné de ce parfum des choses vieilles et pauvres, bien plus navrant encore sous cet aspect de décente médiocrité que dans la misère absolue, étalée au grand jour, hardiment et sans honte. Toutes les autres pièces de l'appartement avaient ce même caractère de vétusté et révélaient, dans chacun de leurs détails, l'existence chétive de ceux qui les occupaient. La meilleure chambre était celle de Maximin. La tapisserie, plus fraîche, avait été renouvelée. Des rideaux de mousseline pendaient aux fenêtres. Il y avait même quelques recherches dans la manière dont ils étaient relevés. Des nœuds de ruban attachaient au mur le petit miroir carré et une image coloriée de la Sainte Vierge. Le tapis de lit, en coton blanc crocheté, était d'un modèle savant, et le volant de mousseline plissé qui l'entourait représentait tous les efforts d'élégance de la maison. Mais, par un bizarre caprice de malade, l'enfant préférait à cette pièce, relativement gaie, la petite salle à manger sombre. C'était là qu'il passait la plus grande partie de la journée, traînant les heures, lisant quand il ne souffrait pas trop, étudiant dans les bons jours. Le reste du temps, il s'amusait à découper des figures de papier ou à suivre du regard le chemin pierreux qui montait le long de la côte. Il ne pouvait marcher. La paralysie, cette pieuvre effrayante qui guette tous les dégénérés de notre époque, venait d'attaquer les membres inférieurs. Né souffreteux, rachitique, il avait végété d'une convulsion à l'autre jusqu'à l'âge de 7 ans. Arrivé à ce moment de transformation qui devait le guérir, la nature n'avait pu surmonter le mal. Après une crise plus violente que les autres, les jambes perdirent le mouvement. Le reste du corps se développa, elles demeurèrent stationnaires, et c'était pitié de voir ses membres grêles, immobiles, enfantins, contrastant avec le développement des épaules et la profondeur du regard. Aucune espérance ne restait de le voir un jour marcher et courir comme les autres garçons de son âge. Le père avait tout essayé, tout ce que la science acquise peut inspirer. L'amour, ici, avait stimulé la médiocrité de l'intelligence, aiguisé la perspicacité. Mais la guérison était impossible. On ne pouvait qu'enrayer le mal, soutenir les forces, empêcher la paralysie d'attaquer les parties vitales. L'enfant, lui, ne se savait pas incurable. Au contraire, il parlait sans cesse de rétablissement et rapportait à cette délivrance toutes ses aspirations de plaisir. Il interrogeait sa sœur sur les endroits qu'il visiterait avec elle. Il aimait à l'entendre causer des longues courses qu'ils entreprendraient ensemble. « Nous irons très loin, n'est-ce pas, Geneviève ? Toujours plus loin !»« Oui, oui, » répondait-elle. Il ne s'apercevait pas qu'elle détournait le visage. Il ne voyait pas les larmes qui gonflaient ses paupières baissées. De sa petite voix de crécelle, il continuait à énumérer ses projets joyeux, ses vastes désirs d'enfant. C'étaient les bons jours, ceux où il souffrait moins, où l'espérance différée n'abattait pas son courage, où toutes les figures de la maison perdaient leur expression morne. C'est que, dans cette demeure, dénuée de toute poésie, le petit malade était le point lumineux, le centre des sollicitudes de la famille. Le visage fatigué du père ne s'éclairait que près de lui, et les rares paroles qui sortaient de sa bouche étaient presque toujours adressées à Maximin. Le docteur Maoul appartenait à la race de ces êtres incomplets, malheureux, qui, dès leur naissance, sont prédestinés à l'insuccès. Fils d'un petit bourgeois de la ville, élevé dans les tristesses d'une arrière-boutique par une mère mélancolique et maladive, étrangère au pays et mourant d'un mal de langueur, il garda toute sa vie l'empreinte des premières impressions qui avaient déprimé son enfance. Il avait hérité du côté maternel d'un sang pauvre, d'un tempérament incertain. Du côté paternel, quelque peu de l'imagination et de l'ambition méridionale, mais sans la volonté et l'ardeur qui en font des armes efficaces. Il était enfant unique. Son père, qui avait amassé quelque argent, voulut le sortir des bornes étroites du petit négoce, lui donner une carrière libre. Dans les villes d'hiver du Midi, les médecins s'enrichissent. Ils ont une saison profitable qui dure 6 mois au moins. Avec de l'audace, de l'entregent, on se fait une clientèle de bon rendement. Le père Maoul regardait, avec des yeux gros de désir, la maison du docteur Servieux, qui s'étalait en plein boulevard, coquette et neuve. Il voyait déjà son fils succédant au vieux médecin, quittant la ville haute pour les splendeurs en plâtre frais de la ville basse. Le jeune homme fut envoyé à la faculté de Montpellier. D'une intelligence médiocre, timide, sans activité, ses études furent longues. Quand il eut pris son grade, les économies de la famille étaient depuis longtemps épuisées. Impossible de faire des frais d'établissement. Il se fixa provisoirement dans la ville haute et y resta toujours. Sa clientèle se composait de modestes rentiers, de petits marchands, de quelques paysans des environs, séduits par ses prix modiques. Jamais elle ne dépassa les bornes de la place de l'église. Cet homme incertain, hésitant, à l'expression désappointée, n'attirait pas les malades riches, qui veulent être rassurés par un aspect prospère. Ses parents morts, il se maria avec une belle fille de Colobrière, qui ne lui apporta que sa santé, ses yeux ardents et un corps de déesse robuste dont avait hérité Geneviève. L'amour, un temps, le consola de l'insuccès. Mais les enfants vinrent, les difficultés surgirent. Ce fut une lutte journalière contre la pauvreté envahissante. Il traversait des heures de découragement absolu. Puis le tempérament paternel s'affirmait de nouveau. Il se reprenait à espérer, à croire pour lui à la possibilité de la fortune. Il descendait dans la ville basse, cherchant du regard parmi les maisons neuves celles qu'il habiterait lorsque la chance serait venue. Cet homme, aux cheveux d'un blond triste, les épaules courbées sous le poids du problème du lendemain, remontait alors la vieille rue d'un pas alerte. Le soir, il racontait à sa femme comment s'organiserait leur vie. Il s'exaltait en causant. De l'aisance, il passait à la richesse. Il arrivait à parler de l'équipage et des toilettes brillantes qu'il saurait lui donner. Innocente et crédule, la pauvre femme l'écoutait en souriant. La nuit, elle rêvait d'une maison au soleil, de chambres hautes avec des meubles clairs, pour retomber le lendemain dans les platitudes de l'existence misérable, dont son mari était incapable de la sortir. Modeste, véridique, scrupuleux, sans vigueur d'intelligence, sans initiative adroite ni volonté persévérante, ses qualités et ses défauts conspiraient également à le maintenir dans la médiocrité. Sous sa main malhabile, toutes les entreprises avortaient. Son esprit paresseux ne parvenait jamais à terminer les brochures scientifiques qui devaient le mettre en lumière. Peu à peu, sauf Geneviève, tous les enfants moururent. La mère s'attrista et perdit sa beauté. La naissance de Maximin en fit une vieille femme. Elle végéta quelques années encore, puis s'en alla à son tour, sans regretter la vie, seulement recommandant avec ardeur le petit garçon infirme à son mari et à sa fille. Une fois la promesse accordée, elle ferma les yeux, se retourna vers la muraille et mourut de lassitude. Après la mort de sa femme, le docteur se résigna définitivement à la mauvaise fortune. Sa nature molle et lourde se refusait aux luttes prolongées. Il ne s'occupa plus qu'à conjurer la misère complète, à arriver au bout de l'année sans dettes criardes et papiers timbrés. La sombre maison de la vieille rue, seul héritage paternel, se lézardait chaque jour davantage. Les réparations devenaient urgentes. Il ne s'en inquiétait pas. Endurci par l'habitude du malheur, il traversait son logis sans apercevoir les tables boiteuses qu'on appuyait au mur, faute d'argent pour les réparer, ni les tapisseries que l'humidité faisait tomber en lambeaux et sur lesquelles Geneviève collait des bandes de papier grossier. À la longue, la défaite et l'insuccès, en détruisant toute espérance, avaient presque perdu leur amertume. Le seul sentiment qui troublât encore sa résignation morne était la pensée du petit infirme. Et quand, par hasard, aujourd'hui, le docteur Maoul traversait dans ses habits râpés le boulevard extérieur, si un regret le prenait à la vue des maisons ensoleillées, des balcons remplis de fleurs, des équipages commodes, de tout cet étalage enfin de luxe et de confort, c'était uniquement pour l'enfant qu'il souffrait de n'avoir pas su acquérir ces choses. Elle aussi, la sœur, ne voyait dans cet horizon borné, dans ce combat journalier et incessant contre la pauvreté, dans cette atmosphère étouffante de médiocrité où tous les instincts s'amortissent, où le libre développement de l'être moral est desséché en sa croissance, qu'un seul but devant elle, qu'une préoccupation, le soulagement du petit. Et ainsi, leur existence s'écoulait à tous trois, isolés et chétives, les années passaient décolorées et monotones. Et sans qu'ils s'en aperçussent, les murs s'écroulaient, le père devenait vieux, l'enfant s'affaiblissait, et au milieu de ces débris, Geneviève croissait en force et en beauté, comme ces jeunes palmiers toujours verts qui s'élèvent, élancés et robustes, sur les villes en ruine de l'Antique Orient. Chapitre 3. C'était une des premières journées de printemps. Un léger effort de brise, passant dans les champs d'orangers, faisait frissonner leurs feuilles luisantes et dégager de leurs fleurs, surchauffées au soleil, un parfum plus vivace qui arrivait en bouffées odorantes et tièdes jusqu'à la place des palmiers. À ce moment, elle était presque déserte. Sur les bancs espacés alentour, sous l'ombrage des grandes branches peinées, on ne voyait que des bonnes avec des enfants ou des vieillards maladifs, exposant à la chaleur du jour des membres raidis que leur sang glacé ne réchauffait plus. De loin en loin, un phtisique marchait, les yeux fixés sur l'ombre décharnée que son corps projetait sur le sable du terrain. Il se voyait mourir et ne s'en apercevait pas. Dans le silence presque absolu de cette heure, sa toux rauque était le seul son discordant. On entendait bien, de temps à autre, les réprimandes discrètes des gouvernantes anglaises, des pleurs d'enfants vite étouffés, le bruit des cailloux tombant de petites mains trop pressées, mais c'était tout. Aucune trace ne restait de la foule élégante du matin. Le tour brillant de l'après-midi ne venait que plus tard, lorsque la grande chaleur était passée. Tout à coup, un promeneur, débouchant du boulevard, troubla de son pas alerte la tranquillité morne de la place. Celui-là n'était pas un malade. Il n'avait ni les négligences de tenue, ni les épaules voûtées des souffreteux. D'une élégance très correcte, presque raffinée, de taille moyenne, un peu fort, il marchait de ce petit pas pressé que leur climat impose aux Russes et qu'ils ne perdent jamais, même en vivant dans le midi. Il portait 35 ans et en avait 40, peut-être davantage. Les traits petits dans un visage gras, brun de peau, avec des yeux clairs, il ne manquait cependant pas de distinction. Et son regard, comme son sourire, avait du charme. Nullement gêné par le public de la place, il ne dissimulait pas son expression, qui était celle d'une attente agréable. Quelque temps, il marcha de long en large, le nez au vent, humant l'air parfumé, s'assit de nouveau, alluma une cigarette, la fuma, la jeta, marcha encore. L'horloge de l'église sonna 2 heures. « C'est pourtant le moment !» murmura-t-il avec impatience. Ses yeux se fixèrent sur une maison, bâtie un peu au-delà de la place des Palmiers, une villa blanche tapissée de roses pâles. Son regard, animé de volonté, eut-il une influence magnétique ? On aurait pu le croire, car à cet instant, la grille dorée s'ouvrit. Deux femmes jeunes traversèrent le jardin, leurs robes claires tranchant sur le vert anglais de la pelouse. Après quelques mots d'adieu échangés, l'une d'elles referma la grille, l'autre sortit et entra sous l'ombre des palmiers. C'était la comtesse Lizzie de Crussol. Baptisée Élisabeth, le diminutif de son enfance lui était resté. Ses amis russes l'appelaient tout court la comtesse Lise. Et à Paris, chacun comprenait. On commençait même à la désigner uniquement sous ce nom, laissant de côté celui du mari. Elle avait à peine fait quelques pas sur la place lorsqu'elle fut arrêtée par le salut du promeneur. Madame de Crussol eut une surprise bien jouée. Comédienne de race, elle ne dédaignait aucun public. « Ah, c'est vous, Libine !» dit-elle. Puis elle ajouta, comme pour expliquer sa présence à cette heure, en ce lieu, « J'ai déjeuné chez Marguerite de Santenac. »« Je le savais !» répondit son interlocuteur. Le russe était trop adroit pour lui rappeler qu'elle-même l'en avait averti. Il se mit à marcher près d'elle, la frôlant de son bras, lui parlant de sa voix douce, un peu chantante. Toute son attitude était celle d'un respect exagéré. Il avait des gestes d'esclave soumis que l'insistance de son regard démentait. 2 ou 3 fois, ils firent le tour de la place. L'accent de Libine devenait de plus en plus persuasif. Elle riait toujours, sans paraître le moins du monde troublée. Ce jeu l'amusait, voilà tout. Mais il la connaissait assez pour comprendre que c'était là le grand point. Cette gaieté intempestive ne parvenait pas à le déconcerter. Les découragements faciles ne sont que le fait des jeunes et des inexpérimentés. Il avait persuadé à la comtesse de s'asseoir. Ainsi, il pouvait mieux jouer du regard et de la voix. « Vous ne savez pas ce que je souffre, » disait-il. « L'ennui que j'endure à ne jamais pouvoir vous parler seul à seul. » « Mais il me semble, » répliquait-elle de son petit accent bref, « que vous usez largement de ce plaisir. »« Oui, observé par 1000 indiscrets, interrompu à chaque instant. »« Eh bien, c'est déjà beaucoup. »«
Cela vous suffit ?»«
Parfaitement. » Libine leva les mains avec une affectation du désespoir. Puis il se pencha vers elle et lui riant dans les yeux,
« C'est que vous ne savez pas les choses que j'ai à vous dire. »«
Mais je les devine. »«
Non, je vous assure. Voyons, consentez à ce que je vous demande. »« Quelle importance cela a-t-il ? Je comprends qu'on refuse un rendez-vous, mais une simple promenade. »«
Ce serait d'une pruderie ridicule, d'autant que rien n'est plus facile. »« Vous savez, à gauche, après la montée de la vieille rue, » on marche quelque temps dans les oliviers, puis on arrive à une petite porte verte.
Qu'on ouvre avec une clé mystérieuse.
C'est inutile, mon cher. Je n'ai jamais su me débrouiller avec les serrures.
Il n'y a pas de clé, c'est beaucoup plus simple. On pousse du doigt une poignée de cuivre et l'on se trouve dans un jardin abandonné au plus pittoresque désordre.
myrtes, arbousiers, genévriers, rosiers en débandade. Les fleurs ont mangé jusqu'aux anciens sentiers qu'elles encombrent de leurs bouquets. Dites que vous viendrez. C'est une étude à faire, je vous assure, sur la flore du Midi.
Vous croyez ?
Répondit Lizzie de cet air distrait, exaspérant pour les hommes, et qui chez elle était un calcul. Les lèvres de Libine se tordirent avec une expression méchante. Il n'aimait pas le persiflage, mais il n'était pas assez sincère pour se montrer mécontent. Au contraire, son sourire et sa voix se firent plus doux. « Ne soyez pas méchante, venez demain. Nous deviserons ensemble sous les amandiers en fleurs. Ce jardin est exquis, vous verrez. » Madame de Crussol haussa les épaules.
« Mais cela tourne à la manie !» s'écria-t-elle. « Voici la dixième fois que vous m'en parlez. »
« C'est que, dit-on, pour gagner une cause, il faut être importun. »
« En ce cas, vous êtes sûre de la vôtre. »
« Moqueuse !» murmura-t-il, essayant de lui prendre la main. Personne ne pouvait les voir, abrités qu'ils étaient par l'ombre large des palmiers. Mais elle était trop avisée pour permettre cette familiarité. Elle se leva.
« Il faut que je rentre. Adieu !»
Il la suivit, continuant à supplier. Arrivée à l'extrémité de la place, elle le congédia. Lui insistait encore. Lassée, à demi curieuse, elle finit par dire
« Qui sait ? Peut-être, nous verrons. Vous dites que c'est à gauche ?»
Puis elle le quitta avec un sourire hautain et, seule, enfila le bout de rue qui conduit à la route nationale. Libine la suivit d'un regard admiratif, railleur et satisfait. Madame de Crussol s'éloignait lentement, d'une démarche un peu traînante, dandinant les hanches avec mollesse. Le mouvement était imperceptible, mais il suffisait pour rendre sa tournure reconnaissable entre toutes et lui donner un attrait de provocation qui faisait retourner les hommes. Elle portait avec cela la tête très droite, sur un cou mince et rond, sortant d'épaules larges. Ce port de tête hautain rachetait la longueur voluptueuse de l'allure, et ce contraste déconcertant ajoutait la séduction de l'énigme au charme de la femme. Maintenant, elle était arrivée dans la rue nationale et suivait la ligne des magasins. Apparemment inconsciente des regards allumés et curieux qui la suivaient, elle faisait quelques pas, puis s'arrêtait devant les étalages. Habituée aux vraies élégances, rien ne pouvait lui plaire, semblait-il, dans ce luxe éclatant et vulgaire. Mais elle était si féminine et frivole en ses goûts que ce clinquant l'amusait. Elle regardait avec ses jolis yeux clairs de parisienne les confections ruisselantes de perles, les broderies trop vives. Un sourire retroussait sa bouche. Elle l'avait exquise dans son incorrection, avec des lèvres charnues dont la supérieure, trop courte et relevée au milieu, laissait apercevoir des dents petites, serrées, d'une blancheur laiteuse. Légèrement penchée en avant, elle portait l'ombrelle renversée sur l'épaule. Les reflets roses de la doublure coloraient le tissu blanc de sa robe. Son petit visage de rousse pâle, son nez retroussé et fin, que déparaient des taches de rousseur. Son front bombé, que les frisures courtes ne cachaient pas. D'arrêt en arrêt, sans se presser, elle arriva ainsi à l'autre bout de la route et, tournant sur le boulevard, s'arrêta devant une maison coquette. Une marquise avançait sur la rue. Il y avait sous la porte des bégonias en fleurs, des plantes vertes. Le concierge souleva sa casquette galonnée. Madame de Crussol, très altière, passa sans le voir et gravit l'escalier jusqu'au premier étage. L'appartement où elle entra était le type des appartements meublés élégants des villes d'hiver. Du damas de soie, quelques dorures, des consoles de marbre. Par-ci, par-là, un ou deux fauteuils de jonc à l'anglaise, des tapis de peluche, des bibelots parisiens,
dénotait l'individualité des habitants que le hasard jetait pour quelques mois dans ces demeures banales. Un feu que le soleil éteignait de sa flamme plus forte brûlait dans la cheminée du salon. Malgré l'atmosphère étouffante, un homme jeune était assis à côté du foyer, ayant près de lui un guéridon chargé de livres. « Mais on meurt ici !» s'écria la comtesse en entrant. Et d'une main prompte, elle ouvrit la fenêtre. En se retournant, elle aperçut son mari. « Je ne vous avais pas vu, Albert. Je vous croyais au casino, faisant votre whist. » « Non, je lisais. La partie n'a pas pu s'arranger. Libine refuse de jouer à cette heure-ci. » « Et pourquoi ? » demanda-t-elle tranquillement. « Il prétend que cela dérange sa promenade. » Madame de Crussol eut un petit sourire amusé. Une expression railleuse passa dans ses yeux verts, dont le globe arrondi donnait au regard quelque chose de naïvement étonné ou d'insolemment moqueur. « Il tient donc à sa promenade, ce pauvre Libine ! » s'écria-t-elle avec un rire aigre. « Espère-t-il maigrir ?»« S'il vous entendait, ma chère, » répondit Monsieur de Crussol, « quel coup de massue pour lui ! Serge se croit encore le but inavoué des jolies femmes en quête de mal faire. Elles commencent toutes par lui. »«
Pas toutes ?»
répliqua la comtesse d'une voix brève, en fronçant ses sourcils sombres, qu'un art savant brunissait chaque jour. Son mari s'était levé. « Ne vous fâchez pas, Lizzie, je sais bien qu'il y a des femmes charmantes qui ne sont ni pour Libine ni pour personne. Et, faut-il vous l'avouer, ajouta-t-il plus bas, cette conviction me rend heureux. » En parlant, il avait touché la main de sa femme. Elle était gantée encore. Il releva la peau de Suède qui couvrait le bras et posa ses lèvres sur le poignet blanc. Elles y restèrent longtemps. Mais il y avait tant de nonchalance dans l'attitude de l'homme qu'on ne pouvait deviner s'il obéissait à une ardeur réelle ou simplement à un calcul de galanterie. La comtesse Lise ne retira pas sa main. Aucun des muscles de sa face ne tressaillit. Elle continua à sourire sous cette caresse conjugale. Après un instant, M. de Crussol dit « Je sors, cher ami. Avez-vous des ordres à me donner ?» « Non, rien, seulement ne rentrez pas trop tard. » Elle mit un peu de coquetterie dans ses mots, et même lorsqu'il fut parti, se pencha hors du balcon pour lui faire un geste d'adieu. Il s'en allait de son pas indolent, les épaules hautes sur un long corps maigre, la tête un peu penchée. Ce n'était pas un héros de roman, mais il avait de la race et de la distinction. Sa femme le suivit des yeux, assez longtemps, avec un regard qui semblait dire « Pourquoi ? Je n'en sais rien, il n'est pas plus mal que les autres. » Puis elle rentra, enleva son chapeau, ses gants, sa mantille, et revint de nouveau s'accouder à la fenêtre. Il était 3 heures. Sur le boulevard désert, le soleil tombait en larges rayons obliques. L'asphalte poussiéreux renvoyait une brûlure sèche au gosier et à l'œil. Les stores des balcons baissés jetaient une note vive sur la longue artère blanche. À travers les palmiers qui fermaient l'horizon, au-delà des champs d'orangers et de tamaris, on apercevait le miroitement de la mer. La comtesse regarda longuement de ce côté, jusqu'à ce que ses yeux ne pussent plus supporter le scintillement brillant du point bleu qui l'attirait. Alors, elle dirigea ses paupières clignotantes vers la limite du boulevard, là où il tourne en chemin raide pour rejoindre la place de l'église. Elle vit en imagination la vieille rue qui monte à travers les maisons noires. « C'est là, » murmura-t-elle. « Tout en haut, on prend à gauche, et à travers les rocailles, on arrive à ce jardin abandonné. Très romantique, mais pas commode. Je suis assez fantastique pour ce genre de sport. Ce qu'il y a de drôle là-dedans, c'est Libine. » Elle s'arrêta puis reprit. « Il y a plus bizarre encore, c'est que j'aille à ce rendez-vous. Serge ? Jamais je n'aurais cru. Il a plus de volonté que moi. Voilà son secret. Car au fond, je ne l'aime pas. J'aime mieux Georges. Pauvre Georges. C'était lui l'an passé. Elle toucha le ruban de velours noir qui coupait de sa ligne sombre son poignet blanc. C'était le bras droit, celui que son mari n'avait pas embrassé. Les doigts de la jeune femme se posèrent avec un geste caressant sur le chiffre de diamant, bizarrement entrelacé, qui fermait le bracelet. « Nous nous sommes bien aimés, pourtant. Est-ce ma faute si nous avons été séparés ?» Elle soupira. « Je regrette maintenant d'avoir dit que j'irai demain. Georges, puis lui, qui sera-ce l'an prochain ?» Elle eut un geste, une exclamation de dégoût rapide. « Bah ! » s'écria-t-elle en repoussant les mèches rousses qui chatouillaient son front. « C'est la vie ! On change !» Soudain, ses traits mobiles reflétèrent une expression nouvelle, triste et tendre. Elle se dit à elle-même doucement « Il y a cependant des choses qui ne changent pas. » Après quoi, quittant la fenêtre, elle sortit du salon, parcourut le vestibule dans sa longueur et alla frapper à une porte placée à l'extrémité du couloir. « Hatfield, puis-je entrer ?» On entendit un petit cri de joie, quelqu'un qui se levait. « Oui, madame la comtesse, » répondit une voix respectueuse, tandis que le battant s'ouvrait. Chapitre 4. La chambre où venait de pénétrer madame de Crussol était vaste et spacieuse, éclairée par deux croisées à travers lesquelles le soleil entrait largement. On voyait réuni dans cette pièce tout ce que le confort moderne a pu inventer pour le soulagement d'un malade et l'amusement d'un enfant. Des fauteuils de formes diverses s'adaptant à toutes les postures du corps, des tables à vis, des pupitres destinés à soutenir les livres d'images, des jeux de mille sortes. Dans cet encombrement de jouets, rien ne manquait que le cheval de bois traditionnel, où les garçons font leurs premiers essais d'équitation. C'est qu'il n'aurait pu s'en servir, le pauvre petit être malade, auprès duquel Lizzie de Crussol venait de s'agenouiller. Lui aussi, comme Maximin, était infirme. Une chute, arrivée quelques mois après sa naissance, avait occasionné une lésion à l'épine dorsale. Toutes les cures avaient été tentées, toutes les facultés d'Europe consultées. On le faisait vivre à force de soins et de fortifiants. On le conduisait chaque hiver dans le Midi, mais les espérances que donnaient les sommités médicales à la mère impérieuse qui ne voulait pas se résigner ne s'étaient pas réalisées encore. « Lucien guérira, il doit guérir, je veux qu'il guérisse, » disait-elle, en regardant d'un air de défi les figures des médecins, dont l'expression sérieuse semblait présager un arrêt défavorable. Il hochait la tête et évitait de répondre. Cette femme rousse les effrayait, les empêchait d'être sincères. Maintenant, la mère et le fils se tenaient enlacés. Il y avait entre eux une ressemblance bizarre. On aurait dit le même petit visage, car l'ossature était identique. Seulement, la femme avait les contours pleins. Chez l'enfant, ils étaient creux. La peau tirée rendait plus apparentes les taches de rousseur. Les yeux ternes avaient une expression maussade. Il portait une large blouse de velours sombre qui dissimulait sa maigreur et la déviation de l'épaule. Sa mère ne voulait jamais le voir que vêtu de la sorte. Un jour, étant entrée dans la chambre tandis qu'on l'habillait, la vue de ce pauvre petit corps chétif l'avait jetée dans une crise si violente de désespoir et de colère que la bonne, effrayée, par pitié pour l'enfant, s'était promis d'éviter semblable occurrence. Dorénavant, en effet, par un accord tacite, la porte de Lucien fut fermée à madame de Crussol, aux heures où il n'était pas arrangé pour le regard. D'ailleurs, elle ne restait jamais longtemps près de lui. Mais en ces moments-là, elle le couvrait de caresses passionnées. riait, jouait comme un enfant. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui ? » demandait-elle, toujours en arrivant. « Y a-t-il quelque chose que tu désires ? Un nouveau jeu ? Un théâtre ?» L'enfant branlait la tête et jetait un regard blasé sur les jouets abandonnés, entassés sur les tables. Et quelle envie père et mère lui apportaient chaque jour. « Alors, que veux-tu ? » Plusieurs fois, il avait répondu « Je voudrais marcher. » Mais comme sa mère, pour toute réponse, le serrait dans ses bras avec une violence qui le meurtrissait, il avait cessé d'exprimer ce désir. L'étreinte trop forte lui faisait mal. Il demandait autre chose, disant souvent « Laisse-moi jouer avec tes cheveux. » Elle secouait la tête et les longues mèches se déroulaient, couvrant son visage, emprisonnant ses bras. Alors, il poussait une exclamation joyeuse. Ses doigts fluets plongeaient avec délice dans cette masse rutilante. Et c'était entre eux des cascades de rires, de petits cris heureux. À travers le voile rouge, les yeux de sa mère luisaient. Puis l'enfant changeait de jeu. Il tournait autour de sa main les tresses dénouées. « Vois-tu, je les enroule 6 fois !» Et il montrait son pauvre petit poignet, qui, serré dans sa manchette de vieille guipure, se courbait sous le poids trop lourd de ce cercle roux. Depuis que l'enfant avait pris goût à ce divertissement, la mère ne souffrait pas qu'on touchât ses cheveux. Jamais elle ne les dénouait devant personne. Quand son mari soulevait une de ses boucles, elle repoussait sa main brusquement. Son visage prenait une expression méchante. Pour ne pas avouer son vrai motif, elle affectait une délicatesse physique extrême. Elle avait l'épiderme de la tête si sensible que le moindre attouchement la faisait souffrir. Il riait alors. « C'est une maladie nouvelle !» disait-il. Habitué aux caprices de sa femme, Monsieur de Crussol ne s'en étonnait plus et n'en cherchait pas l'explication. D'ailleurs, il n'aurait pu deviner la raison de celui-ci, car jamais entre eux ils ne parlaient de l'enfant. D'un commun accord, ils évitaient ce sujet, qui avait été la cause première de leur désunion. Elle datait, en effet, de l'infirmité de Lucien. Jusqu'à ce malheur, ils avaient vécu approximativement heureux. Quoique leur mariage n'ait pas été un mariage de choix et d'inclination. Mais la beauté de Lizzie avait un charme trop irritant pour ne pas s'exercer, et au bout de peu de jours, son mari était devenu très honnêtement amoureux d'elle. Elle, doucement, lui avait permis de l'adorer. Ce grand garçon indolent ne lui déplaisait pas. Il lui racontait des histoires drôles qui l'amusaient, qui lui découvrait tout un coin de vie nouveau et ignoré. Ils vécurent ainsi 2 ans, en amants et en camarades, lui imprudemment, lâchant la bride aux caprices les plus hardis de sa femme, elle prenant l'habitude de ne voir dans son mari que l'associé de ses plaisirs, le complice de ses fantaisies. La naissance de Lucien jeta pour un instant une note attendrie dans ce ménage trop extérieurement et trop bruyamment heureux. Puis l'existence interrompue reprit de nouveau. Ils adoraient l'enfant, mais ne s'en occupaient pas. On lui avait donné pour nourrice la plus robuste des bourguignonnes, que surveillait une bonne Anglaise de premier ordre. Elle venait d'élever les 14 rejetons d'une maison ducale et valait un capital. Que pouvait raisonnablement demander de plus un bébé de quelques mois? La mère avait cependant ses jours de passion maternelle. Sa nature mobile l'entraînait aux extrêmes. Alors elle s'amusait avec l'enfant des heures entières, mettant dans ses jeux la fougue impétueuse de son tempérament. C'est en vain que l'Anglaise osait intervenir, que Monsieur de Crussol lui prêchait la prudence. Elle riait de leurs craintes, repoussant les respectueuses recommandations de la gouvernante, se moquant des avertissements de son mari. Elle disait avec un orgueil enfantin « Je suis la mère, je sais ce que je fais ». Elle le savait si peu qu'un jour, pour amuser l'enfant, elle se divertit à le jeter de ses bras dans ceux de sa nourrice. D'abord, le jeu fut sans danger. Les deux femmes étaient très près l'une de l'autre. Aucun péril n'était possible. Le bébé agitait les mains joyeusement avec de petits rires convulsifs auxquels Madame de Crussols se joignait. Mais le plaisir fut court. La bourguignonne était sotte, insouciante. Elle s'éloigna de sa maîtresse sans comprendre son imprudence. Une dernière fois, l'enfant fut jeté, mais la distance n'était plus la même. Les bras de la mère ne furent pas assez prompts à le saisir. Il tomba. Son rire se changea en cri. On le releva, apparemment sans blessure. Mais lorsqu'au bout de quelques jours, les gémissements que l'on attribuait au saisissement et à la peur n'ayant pas cessé, les médecins firent un examen plus complet. Ils parlèrent de lésions possibles, recommandèrent l'immobilité. L'enfant devait rester étendu, peut-être l'épine dorsale était-elle endommagée. Alors la mère s'accusa. Elle demanda pardon à tout le monde, à son mari, à son fils. Ce fut un désespoir immodéré, sans résignation. Elle souffrait dans son cœur et dans l'orgueil immense qui était le trait le plus fort de son caractère. Une soudaine humilité lui était venue. Elle implorait pour toute chose, maintenant, l'avis de Monsieur de Crussols. Le malheur semblait avoir donné naissance à une femme nouvelle, douce, soumise, craintive. L'expression même de son visage s'était modifiée. Une tristesse l'attendrissait. Sa tête, d'ordinaire si droite, apprenait à se courber. Ceci dura quelque temps. Puis un jour, une amie officieuse lui dit « Ma chère, ne vous faites donc pas de reproches. C'est une maladie de famille. Tôt ou tard, cela devait arriver. »« Qu'est-ce ? Que voulez-vous dire ? Je ne comprends pas. » Une maladie de famille. Impossible qu'on vous l'ait cachée, continua l'indiscrète. Personne ne l'ignore. L'oncle de votre mari a passé 20 ans de sa vie étendu sur une chaise longue. Et l'enfant que votre belle-sœur pleure encore et qu'elle a perdu avant votre mariage n'avait jamais pu marcher. Quelquefois, ce mal-là saute une génération, mais à la seconde, on est sûr de le voir reparaître. Il suffit d'un petit accident pour le développer. Souvent, il se manifeste sans cause.
Non, je ne le savais pas, répondit Madame de Crussols, très pâle, les lèvres relevées par un sourire étrange et dur. Elle se fit répéter plusieurs fois le récit des deux cas dont on lui parlait, comme si elle avait peur d'en oublier les détails, d'en perdre le sens accusateur. Puis, lorsqu'elle fut seule, elle murmura avec une rancune profonde qui contenait tout un avenir de représailles. « Et Albert a permis que je m'accuse, que je m'humilie ? Et pourtant il savait. D'un mot sincère, il pouvait calmer mon désespoir. » Une femme moins violente et plus expérimentée n'aurait pas condamné si promptement. Des doutes lui seraient venus. Elle aurait interrogé les médecins de la famille. Mais Lizzie de Crussols trouvait trop de soulagement à dégager sa responsabilité pour ne pas accepter l'explication consolante qu'on venait de lui fournir. L'enfant souffrait d'un mal héréditaire, que la chute avait peut-être déterminé, mais auquel il était destiné depuis sa naissance. Certes, elle avait été imprudente, mais le vrai coupable était son mari. Non seulement il avait transmis à l'enfant ce legs fatal, mais encore il laissait peser sur elle l'accusation effrayante du malheur survenu. Au souvenir de ses pensées humbles, de ses paroles de repentir passionné, une rougeur d'indignation brûlait ses joues. Elle se rappelait les consolations protectrices d'Albert. « Ma pauvre petite femme, ne vous tourmentez pas ainsi !» Et tout le temps, il savait d'où venait le mal. Froidement, il avait savouré son humiliation de mère. Dans le tumulte de sa colère, Madame de Crussols aurait voulu courir chez son mari, lui jeter à la face une imputation de déloyauté. Mais il venait de partir. des affaires importantes l'avaient appelée hors de Paris. Elle pouvait écrire, ce fut son premier mouvement. Puis la réflexion la calma. Lizzie était de ces natures qui répugnent d'instinct aux explications sincères. Elle préférait dissimuler l'arme qu'elle tenait en main afin de lui garder toute sa force. Elle n'avait à gagner en parlant que la satisfaction d'épancher sa rancune. Avec son amour-propre, Albert soutiendrait que l'enfant était né bien portant, que l'accident survenu était l'unique cause du mal. Pour se débarrasser de ses reproches, il lui rappellerait ses paroxysmes de remords, les mots par lesquels elle s'était accusée. Une science précoce avait appris à la jeune femme que la franchise est une faiblesse, que pour garder prise sur les hommes, il faut avoir à leur reprocher des torts qu'on n'articule pas. Elle se tut donc, chérissant ses griefs, s'aigrissant contre Monsieur de Grussol, perdant petit à petit le sentiment de la part qu'elle avait eue dans l'événement néfaste. Lorsque plus tard elle apprit la vérité, c'est-à-dire que le mal héréditaire n'était que l'interprétation malveillante de deux accidents arrivés dans la même famille, il était trop tard pour un rapprochement, que peut-être, d'ailleurs, aucun des deux ne désirait plus. La crise de la maladie de Lucien avait naturellement et forcément interrompu la vie du jeune ménage. Elle recommença sur des bases différentes. La femme qu'Albert retrouva au retour de son voyage n'était plus l'amoureuse naïvement provocante des premiers jours, ni la mère désespérée dont il avait essuyé les larmes, mais une femme au regard insolent, aux caprices impérieux. Elle était devenue insaisissable et ne se rendait qu'avec un sourire inquiétant sur sa lèvre retroussée. Il chercha une explication qu'elle s'obstina à refuser, se renfermant dans un silence maussade et ironique. Peut-être souffrit-il, mais son naturel indolent l'empêchait de s'acharner longtemps après une femme qui se dérobait. D'ailleurs, Lizzie ne lui faisait pas la vie dure. Elle avait le caractère gai et de brusques retours de coquetterie. Ses fugitives tendresses naissaient d'un calcul habile. Elle était trop adroite pour consentir à perdre son influence au profit d'une inutile rancune. Cependant, elle avait d'un coup net séparé leurs deux existences, s'assurant dès le début, avec le sang-froid tranquille qu'elle tenait de la race anglaise de sa mère, une complète liberté d'allure. « Vos plaisirs ne m'amusent plus, » dit-elle à son mari, « et vos compagnons, d'ailleurs, ne sont pas la meilleure société pour une jeune femme. » Il s'inclina devant ce scrupule de pruderie dont il reconnaissait la justesse, et dès lors, graduellement, sans choc, sans récrimination d'aucune sorte, chacun d'eux suivit sa voie. Elle, tout à fait indifférente, lui, encore vaguement amoureux, d'une façon intermittente, mais bien trop nonchalant pour s'imposer, trop faible pour réagir. Les coquetteries de sa femme l'ennuyaient lorsqu'elle dépassait la mesure. Cependant, il ne voyait pas au-delà. Ses ennemis prétendaient qu'il s'aveuglait volontairement afin de ne pas déranger la quiétude de sa vie. L'enfant, qui aurait dû les rapprocher, n'était entre eux qu'une cause de désunion. La mère ne permettait pas au père d'en parler. Un jour, qu'il avait dit tristement « Je crains bien que le pauvre petit ne se remette pas ». Elle le regarda avec des yeux si terribles que jamais, par pitié pour elle, il n'osa revenir sur ce sujet. Il crut qu'elle s'accusait et imposa silence à toute expression de regret qui aurait pu ressembler à un reproche. Elle ne devina pas ce scrupule de délicatesse. Avec l'inconséquence des femmes de sa sorte, qui n'ont d'autre guide que leur impressionnabilité nerveuse, elle embrassait son fils, disant avec une violence qui effrayait l'enfant « Personne ne t'aime que moi. Personne !»